de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le coin diplomatique et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, les magazines culturels, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal aujourd'hui avec Maudry. Il y a quelques événements à informer, entre autres. Il est recommandé de réexaminer la coopération en matière de pêche entre l'Indonésie et le Vietnam. Président Joko Widodo rencontrera la présidente tanzanienne pour discuter de la poursuite de la coopération. Le gouvernement va créer un corridor circulaire pour l'archipel pour stimuler l'économie indonésienne. Le ministère du Tourisme et de l'économie créative participe à la conférence de presse ATF 2024 de NTO au Laos. Président de l'organisme budgétaire du Conseil représentatif du peuple de la République d'Indonésie sur la valeur des investissements prometteurs dans l'alimentation et l'énergie verte. Java Central renforce sa coopération avec Singapour dans le secteur de l'investissement. Et Ginting s'est qualifié en douceur pour les 16 dernier match du Master d'Indonésie 2024. Mon cher auditeur, voici la nouvelle incomplète. Le directeur exécutif du Centre d'études maritimes pour l'humanité, Abdul Halim, a suggéré que la coopération en matière de pêche signée par les gouvernements indonésiens et vietnamiens concernant l'élevage du homard soit revue. Selon Halim, en plus d'être stratégique, cette collaboration est en réalité d'opportunité d'écloserie et d'élevage de homards pour répondre aux besoins nationaux. Halim, contacté par Antara depuis Jakarta jeudi 25 janvier, a également estimé que le gouvernement indonésien devait faire des efforts pour restaurer les ressources marines et halieutiques dans les eaux nationales. Suite à l'exploitation excessive des homards en Indonésie. Résultat d'une étude par la Commission nationale pour l'étude des ressources halieutiques, il espère que les résultats de l'étude deviendront un élément à prendre en compte par le ministère des Affaires maritimes et de la pêche dans l'élaboration des politiques et des décisions lors de la mise en œuvre des programmes conformes à l'esprit de durabilité des ressources halieutiques. La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan rencontrera le président indonésien Joko Widodo pour discuter de la poursuite de la coopération entre les deux pays, a annoncé mercredi le ministère indonésien des Affaires étrangères. Cette visite était également une réponse à la visite d'État du président Joko Widodo en Tanzanie en août de l'année dernière. Dans un communiqué de presse du ministère indonésien des Affaires étrangères, publié sur son site internet, le vice-ministre des Affaires étrangères, Pahala Manchuri, a reçu mardi 23 janvier la visite du ministre tanzanien des Affaires étrangères et de la coopération est-africaine, Januari Makamba. La réunion a porté sur les préparatifs de la visite de présidente tanzanienne en Indonésie qui aura lieu du 24 au 26 janvier 2024. La réunion bilatérale était la première réunion de Wakamba depuis sa nomination au poste de ministre tanzanien des Affaires étrangères et de la coopération est-africaine le 1er septembre 2023. Lors de sa visite, la présidente Samia amènera trois ministres et 131 délégations d'entreprises travaillant dans des domaines multisectoriels. Ces délégués d'affaires assisteront au Forum des affaires et de l'investissement Tanzanie-Indonésie le 25 janvier à l'Hôtel Mulia. Ce forum est le fruit d'une collaboration avec la Chambre indonésienne de commerce et d'industrie, CADIN, plusieurs collaborations potentielles dans les domaines du commerce, de l'investissement, du pétrole et du gaz, des minéraux, de l'énergie, de l'économie bleue et de la coopération au développement ont été discutées lors de la réunion du vice-ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie et du ministre des Affaires étrangères de Tanzanie. Le ministre coordonnateur de l'économie indonésienne, Erlangga Hartanto, a transmis le projet du gouvernement de former le corridor circulaire de l'archipel comme l'un des nouveaux moteurs économiques nationaux. Erlangga, lors de la table ronde des investisseurs à Cirebon, dans l'ouest de Java, jeudi 25 janvier, a déclaré que le corridor périphérique de l'archipel couvrirait le nord de Java, le sud de Sumatra, le sud de Sulawesi et l'est du Kalimantan. Le ministre Erlangga a déclaré que le développement du port de Patimban à Subang et la construction du projet de route à péage d'accès de Patimban étaient d'une des premières étapes pour que le corridor circulaire de l'archipel puisse être réalisé. Actuellement, le port de Patimban est en mesure de soutenir le secteur manufacturier, en particulier l'industrie automobile dans la région de Java Nord. Un autre objectif du corridor périphérique de Nusantara est de réduire les coûts logistiques à moins de 10%. Erlangga a ajouté que la capitale de l'archipel deviendra également l'une des villes de soutien du corridor circulaire de l'archipel. Outre l'augmentation de la croissance économique, la région devrait également égaliser l'économie afin qu'elle ne soit pas uniquement centrée sur l'île de Java. L'Indonésie, par l'intermédiaire du ministère du Tourisme et de l'Économie créative, a participé activement à une série d'événements du Forum du tourisme de l'ASEAN 2024 qui ont eu lieu à Vientiane, au Laos, du 23 au 27 janvier 2024, dans l'un des événements auxquels a participé l'Indonésie, à savoir le point de presse de l'Organisation nationale du tourisme Forum du tourisme de l'ASEAN 2024, mercredi 24 janvier. La jointe au marketing au ministère du tourisme et de l'économie créative, Nima de Ayuman Martini, a expliqué un certain nombre d'étapes pour accélérer le développement du tourisme durable mis en œuvre par le gouvernement indonésien. Nima de Ayu Martini a déclaré que le développement d'un tourisme inclusif et durable est une priorité pour le gouvernement indonésien. Divers efforts ont été présentés, notamment le lancement de programmes, de stratégies et de politiques pour réaliser le tourisme vert. Nima de a ajouté, le ministère du Tourisme et de l'Économie créative prépare également, entre autres, des villages touristiques durables, la mise en œuvre de la normalisation et de la certification CHS SE, campagne zéro déchet, par de plastique ainsi que la mise en œuvre et de plans d'action communs pour une industrie touristique durable en Indonésie. Le président de l'organisme budgétaire Banggar du Conseil représentatif du peuple de la République d'Indonésie, Saïd Abdullah, considère les investissements dans les secteurs de l'alimentation et de l'énergie verte comme plus prometteurs. De plus, les deux secteurs sont pleinement soutenus par des politiques telles que des incitations fiscales, des droits d'importation et d'autres commodités telles que les licences. S'exprimant à Jakarta mercredi 24 janvier, il était optimiste quant au fait que les trois candidats à la présidentielle et à la vice-présidence renforceraient leur orientation politique sur les deux secteurs une fois élus. Dans le même temps, pour les secteurs autres que l'alimentation et l'énergie verte, Saïd estime que la performance des investissements ralentira cette année compte tenu des conditions électorales générales qui génèrent de l'incertitude pour les investisseurs outre la situation politique antérieure, la situation mondiale marquée par des tensions de plus en plus répandues au Moyen-Orient, la guerre qui n'est pas encore terminée entre la Russie et l'Ukraine, et les tensions entre la Chine et les États-Unis en Asie de l'Est limitera également les flux de capitaux vers l'Indonésie. Par conséquent, selon lui, il est naturel que la Banque mondiale fasse des projections de croissance économique inférieures à l'objectif du budget des recettes et dépenses de l'État pour 2024. Le gouvernement provincial de Java Central renforce sa coopération avec le développement de Singapour en ouvrant des opportunités d'investissement plus larges dans divers secteurs. Le gouverneur par intérim du centre de Java, Nana Sujana, a déclaré mercredi à Semarang que les investissements de Singapour dans le centre de Java s'est classé au troisième rang après le Japon et la Corée du Sud. Cela a été transmis par Nana après avoir reçu une visite de travail de l'ambassadeur adjoint de Singapour. Jeremy sort au bureau du gouvernement central de Java à Semarang. Selon lui, la coopération entre le centre Java et Singapour est bien établie avec les investissements les plus importants dans les logements, les zones industrielles et les bureaux. Pour les produits d'exportation, il existe cinq principaux produits, à savoir le bois et les produits du bois, le tabac, les chaussures, les meubles et l'éclairage de la maison, ainsi que les vêtements. Le joueur indonésien de badminton simple masculin Anthony Sinisuka Ginting s'est qualifié sans problème pour les huitièmes de finale du Master d'Indonésie 2024. Lors des huitièmes de finale qui ont eu lieu mercredi à Istora Senayan Jakarta, Ginting a battu le joueur de badminton thaïlandais Wang Charon Kantapon en 2-7-2-0, 21-13 et 21-15 dès le premier match. Le quatrième joueur mondial de badminton a immédiatement appuyé sur l'accélérateur et a obtenu 4 points d'affilée. En fait, Ginting a continué à dominer le match et a rendu difficile le développement de son jeu. En conséquence, Ginting a clôturé la première période de match avec une avance de 7 points, 11-4. Avec ces résultats, Ginting s'est qualifié pour les huitièmes de finale et a attendu des adversaires potentiels entre le joueur de badminton malaisien Jun Hao Leon et le joueur de badminton japonais Kenta Nishimoto, qui n'avait pas encore concouru. Bon, chers auditeurs, c'est tout. Les nouvelles d'aujourd'hui.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le quai diplomatique. Et pour le titre, rassemblement de presse et les priorités de la diplomatie indonésienne avec les médias namibiens. L'ambassade de la République d'Indonésie à Windhoek a tenu une réunion avec les médias namibiens sur le thème « Réalisation de la politique étrangère indonésienne en 2023 et priorités en 2024 ». À l'ambassade d'Indonésie à Windhoek, vendredi 19 janvier dernier. La réunion de presse a réuni un certain nombre de médias bien connus de Namibia Africa TV, un certain nombre de journalistes des journaux New Era, Républicaine et Namibian Sun. La réunion vise à diffuser des informations sur les réalisations diplomatiques de l'Indonésie au cours de près d'une décennie et sur les priorités de politique étrangère de l'Indonésie en 2024. Le coordinateur fonctionnel pour l'information, les affaires socio-culturelles, l'ambassade d'Indonésie à Windhoek, Ari Hadiman, a déclaré que cette réunion de presse était un forum important pour prioriser la transparence et établir une collaboration avec les partenaires médiatiques. Il espère que les informations présentées aujourd'hui pourront créer une compréhension positive de l'Indonésie en Namibie. Au début de la présentation des réalisations diplomatiques de l'Indonésie, les invités ont été invités à regarder la vidéo « Faire progresser une politique étrangère libre et active » en voyage de 10 ans, produite par le ministère indonésien des Affaires étrangères. Les journalistes ont ensuite suivi une explication des réalisations diplomatiques indonésiennes au cours des 9 dernières années. À cette occasion, une brève explication a également été donnée sur les réalisations de performances de l'ambassade d'Indonésie à Windhoek dans le développement des relations bilatérales entre l'Indonésie-Namibie et l'Indonésie-Angola. L'événement de rassemblement de presse a été présenté de manière interactive sous forme de questions et réponses. Le tourant, le rassemblement de presse, l'ambassade d'Indonésie a également transmis des informations sur les opportunités du programme de bourse de partenariat avec les pays en développement ouvert du 23 janvier au 23 février 2024. Le rassemblement de la presse est également un moyen pour l'ambassade d'Indonésie à Windhoek de promouvoir les délices culinaires indonésiens traditionnels, à savoir le riz jaune, le rendang de bœuf et des collations telles que les rizoles et les boulettes de viande frites. Chers auditeurs, c'était la Quai diplomatique pour ce soir. Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 25 janvier 1846. Le major Daan Mogot est tué. Daan Mogot était un combattant de la liberté indonésienne et ancien membre de PETA, défenseur de la patrie à Bali et Jakarta en 1942-1945. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il devient commandant de l'armée populaire de sécurité à Jakarta avec le grade de major. En novembre 1945, Daan Mogot fonde et devient le premier directeur de l'Académie militaire de Tangerang à l'âge de 18 ans. Le 25 janvier 1946, il mourut dans la forêt de Lengkong, au sud de la ville de Tangerang, avec 36 autres personnes lors d'une bataille contre l'armée japonaise, alors qu'ils étaient sur le point de les désarmer dans la forêt de Lengkong à Tangerang. Le nom d'Daan Mogot a été immortalisé comme le nom de la route qui relie Grogol et Cengkareng dans l'ouest de Jakarta à la ville de Tangerang. Pendant ce temps, sur le site de la bataille de Lengkong, un monument commémoratif de la bataille de Lengkong a été construit. Passons maintenant à l'événement du 25 janvier, la Journée nationale de la nutrition. La Journée de la nutrition et l'alimentation est une commémoration et une célébration pour le peuple indonésien. Cette commémoration est un effort visant à accroître la sensibilisation à l'importance de la nutrition dans l'alimentation. L'histoire de la Journée de la nutrition et de l'alimentation a été créée pour commémorer le début du corps des travailleurs indonésiens en nutrition avec la création d'une école interprète d'information alimentaire le 25 janvier 1951. Depuis la création de l'école, l'éducation nutritionnelle a continué à se développer rapidement dans de nombreuses universités en Indonésie. À partir de là, il a été convenu que le 25 janvier serait célébré comme la Journée nationale indonésienne de la nutrition. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 25 janvier 2010, le crash d'Ethiopian Airlines en mer Méditerranée. Le vol 409 d'Ethiopian Airlines est un vol régulier d'Ethiopian Airlines en destination de Beyrouth à Addis Abeba. L'avion s'est écrasé dans les eaux de la Méditerranée. Cet accident a tué les 90 passagers et membres d'équipage. Il s'agit du premier accident mortel pour l'Ethiopian Airlines depuis le détournement du vol 961 d'Ethiopian Airlines en 1996. La cause de cet accident serait le mauvais temps. C'est du retard, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Bahagia di sisimu, aku merasa hidupku pun semakin sempurna. Coba kau dengarkan, inilah janjiku, takkan pernah ku lepas dirimu selamanya. Oh, baby 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 baby, I want you to know.
C'était la première chanson indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, d'Indonésie au monde. Et voici donc mon Indonésie.
Chers auditeurs, pour le suivant, voici donc mon Indonésie ayant pour le titre « Le ministère de l'Environnement et des Forêts lance le logo de certification de réduction des émissions ». Le ministère de l'Environnement et des Forêts a lancé le logo indonésien de certification de réduction des émissions, ou SPEI, pour soutenir la mise en œuvre de la bourse du carbone qui a été ouverte en septembre 2023. Le logo SPEI, lancé lundi à Jakarta, comprend une combinaison de formes de feuilles, d'éoliennes et de stylos. Ces images symbolisent l'harmonie et la synergie des secteurs impliqués dans les efforts visant à réaliser la contribution déterminée au niveau national, NDC, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l'adaptation au changement climatique. Dans le détail, les images sont des symboles tels que des feuilles symbolisant l'environnement, des éoliennes en symbole d'énergie propre et des stylos en symbole de certification. Pendant ce temps, les couleurs du logo, entre autres, montrent une sensation propre et naturelle, sans émission de gaz à effet de serre, ainsi que de courage et des politiques visant à surmonter les émissions de gaz à effet de serre. La ministre de l'Environnement et des Forêts, Siti Nurbaya Bakar, a déclaré que le système SPEI est nécessaire pour le commerce du carbone au pays et à l'étranger sur la base des normes applicables au niveau national et international. Pour cette raison, selon elle, le gouvernement a également constitué une équipe qui effectuera les mesures, rapports et vérifications MRV ainsi qu'un panel méthodologique. La ministre Siti Nurbaya a déclaré que cet effort avait été fait pour garantir que le programme SPEI était mis en œuvre de manière transparente, précise, complète, cohérente et comparable et en donnant la priorité à l'intégrité environnementale. Les principales tâches de l'équipe MRV comprennent la réalisation d'un examen final des résultats de validation et de vérification effectués par l'Institut de validation et de vérification qui est accrédité par le Comité national d'accréditation. Pendant ce temps, l'équipe du panel méthodologique, entre autres, est chargée d'aider l'équipe MRV à identifier, compiler et étudier la méthodologie de calcul des émissions de gaz à effet de serre. Il existe plusieurs équipes pour la certification des résultats, car la mise en œuvre du SPEI nécessite des systèmes connectés entre eux. Par conséquent, Siti a déclaré que le ministère de l'Environnement et des Forêts et le ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales partage le système national d'enregistrement PPI et Apple Gatrick pour soutenir la gouvernance des données sur les émissions de gaz à effet de serre. Serge Ritard, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. Voilà, c'était la deuxième chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel.
Chers auditeurs, la résidence de Probolinggo est l'une des principales destinations touristiques de l'Est de Java. Cette résidence est l'une des entrées du Mont Bromo via Cemoro Lawang. Cependant, le Mont Bromo n'est pas le seul site touristique intéressant à Probolinggo. Il y a aussi la cascade de Madakaripura dans la résidence. En plus d'être connue pour sa beauté, on dit que la cascade de Madakaripura était l'endroit où Gajah Mada, un grand chef de l'Empire Majapahit, méditait pour la dernière fois avant de mourir. Sur la base de cette histoire, la population locale croit que la cascade de Madakaripura est éternelle. La raison en est que la cascade n'a jusqu'à présent jamais connu de sécheresse. Pour se rendre à la cascade de Madakaripura, depuis la ville de Probolinggo, il faut se diriger vers le hameau de Branga. Son emplacement est à environ 37 km du centre-ville de Probolinggo. Le prix du billet d'entrée à la cascade de Madakaripura est de 33 000 rupiah. Une fois arrivé à l'entrée, il vous reste encore à faire du trekking pour vous rendre à l'emplacement de la cascade. Ce trajet dure environ 20 minutes depuis l'entrée. L'une des caractéristiques de la cascade de Madakaripura est la hauteur de la falaise d'environ 200 mètres. La hauteur fait de la cascade de Madakaripura la plus haute cascade de l'île de Java ainsi que l'une des plus hautes d'Indonésie. Outre sa hauteur, le charme de la cascade de Madakaripura se reflète également dans la forme de la falaise entourant la cascade. Il a une forme circulaire comme un verre géant en posant à la première vue. Une autre caractéristique unique est que l'eau ne coule pas seulement du milieu de la cascade, mais également à travers des interstices étroits dans les falaises. Cela donne l'impression que l'atmosphère sous la cascade pleut, car l'eau qui coule de toutes les directions donne l'impression que la zone autour de la cascade est de la bruine. La chute de l'eau crée des vagues d'eau très spectaculaires et forme une piscine naturelle sous la cascade. L'eau de la piscine naturelle est d'un bleu transparent et rafraîchissante pour les yeux. En dehors de cela, les abeilles ombragées de la région rendent l'atmosphère plus fraîche et plus belle. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre attention. À bientôt.
Pada dunia, ku manusia yang tak kenal. Serge Ritard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous allons vous présenter premier mannequin indonésien sur le podium de la semaine de la Haute Couture de Paris 2024. Une fière nouvelle est venue du monde de la mode indonésienne où Raihan Fahrizal est devenu le premier mannequin indonésien sur le podium de la semaine de la Haute Couture de Paris 2024. Le ministre du Tourisme et de l'Économie Créative, M. Sandiaga Salahuddin Uno, a également apprécié cette réalisation. Selon Sandiaga Uno, cette réalisation est certainement un déclencheur pour l'industrie de la mode indonésienne afin de créer un meilleur écosystème de la mode à l'avenir. Le ministre indonésien du Tourisme et de l'Économie Créative, Sandiaga Uno, espère également que l'industrie de la mode du pays continuera à se développer et à se progresser afin qu'elle puisse devenir un hôte dans son propre pays. Et bien sûr, l'industrie de la mode indonésienne devrait être très compétitive pour pouvoir rivaliser avec les marques internationales. Cela s'applique également à la mode musulmane indonésienne. Le président Joko Widodo souhaite que l'Indonésie devienne le centre mondial de la mode musulmane. Jusqu'à présent, le sous-secteur de la mode reste le pilier des exportations de l'économie créative indonésienne, avec une contribution de 61,5%. Raihan, ce mannequin né à Bandung, est apparu sur le podium de deux labels internationaux, à savoir Louis Vuitton le 16 janvier 2024 et Solid Homme le 17 janvier 2024. La semaine de la Haute Couture de Paris 2024 s'est tenue du 16 au 21 janvier 2024 à Paris, en France. Sur le podium Louis Vuitton, Raihan a présenté la collection Homme Automne-Hiver 2024 conçue par Pharrell Williams, le directeur créatif de Louis Vuitton. Raihan était magnifique dans un costume rose brique et un pantalon ample combiné à une chemise blanche. L'apparence de Raihan était encore plus complète avec des bottes en cuir à motif de peau de serpent et un sac noir qu'il portait tout au long du podium. Chers amis, c'était la rubrique l'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
I'm use the pain, but you work it out. You will be fine and you will survive. No matter what you have been through, you feel so lonely, but you still be fine. Time will tell what you need.
Of Indonesia.
Yeah, come on, raise the low and me, my bro, and we'll see that with you.
Marah-marah, mulut komat kami doa penuh pasrah. Semoga bukan tanda akhir kisah.
C'était l'autre belle chanson indonésienne. Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie et de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Et maintenant, nous continuons notre programme avec le magazine musical.
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson du groupe Caféine intitulée « Hidupku kan damaikan hatimu ». Ma vie va faire tranquille ton cœur avec Maudry. Ce jeu tard Caféine, un groupe de musique de Bandung, fondé en 1996. À sa création, Caféine était dirigé par Rudy Nugraha, chanteur, Benny Anwar, guitariste, et Danny Saufit, guitariste, Daniel Jaya, claviériste, Yandi Sebastian, guitariste, et Suyudi Kuyut, ou Yudi, batteriste. Noé, membre du groupe Java Jive, est la personne qui a découvert le talent et le potentiel de chaque membre de Caféine. Ce groupe a commencé à entrer dans le monde de la musique indonésienne en 2000 avec la sortie de son premier album intitulé Hijau, avec sa chanson phare intitulée Hidupku Kandamaikan Hatimu, Mon cœur va faire tranquille ton cœur. Cette chanson raconte l'histoire des sentiments de quelqu'un qui a enfin trouvé quelqu'un qui peut le mettre à l'aise et profiter de la beauté du monde. Bon, cher Jouetard, voici la chanson du groupe Caféine intitulée « Hidupku kan damaikan hatimu ». Ma vie va faire tranquille ton cœur. Bonne écoute.
Jalan di tepi pantai.
Bonjour Gétard, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voiindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia et regardez sur notre YouTube Voice Indonesia. Pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.